Wenn der Lehrling nicht sagt, on est à peu près, bon tant pis, on va y aller. 639B, je crois, 13 ou 14. C'était la question, vous voyez, je me souviens bien. Alors je reprends un peu avant. De plus, en tout devenir naturel, nous observons plusieurs causes. Par exemple, la cause en vue de laquelle et la cause à partir de laquelle se fait le changement. Il faut donc déterminer sur ce point aussi laquelle se trouve être première et laquelle seconde. Donc on détermine la diversité des causes et l'ordre. Et c'est l'ordre des causes qu'on cherche. C'est difficile pour ces enfants de suivre. Ah, c'est les neveux. Non, faut les mettre ici. J'avais pas vu ici, j'avais pas remarqué que c'était les neveux. Les neveux, ils ont tous les droits. Tu vois, parce que c'était futur. Oui, c'était dans l'ordre biologique, vous voyez. Il faut donc déterminer sur ce point aussi laquelle se trouve être première et laquelle seconde. Il semble que la première cause soit celle que nous appelons en vue de quoi ? En effet, elle est logos. On avait vu ça. Hein ? Et la raison est principe. On est arrêté là. Le logos est arché. Alors ça, c'est très très intéressant. Oui, même dans le langage d'Aristote. Hein. C'est quand même très intéressant de voir ce petit raisonnement qu'il fait pour montrer la priorité de la finalité. Puisque c'est ça qui échappe le plus. Il semble que la première cause soit celle que nous appelons en vue de quoi. Alors c'est intéressant aussi toujours de voir que nous disons finalité, on pourrait peut-être dire en vue de quoi. C'est comme ça. Puisque la finalité, ça effarouche. En vue de quoi, vous voyez, donne la finalité dans l'immanence. Il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas de tomber dans une espèce d'immanence, mais c'est quand même dans l'immanence. En vue de quoi? On essaie de comprendre un ordre. Et on essaie de comprendre un ordre dynamique en vue d'un terme. En vue de quoi? En effet, elle est raison, logos, et la raison est principe. Donc, voir en vue de quoi elle est raison, c'est-à-dire elle est explication. Le logos explique. Or, en vue de quoi explique? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, ces neveux, qu'est-ce qu'ils font là? En vue de quoi? En vue de quoi? En vue de grignoter sur la sagesse. Donc, en vue de quoi? Et le en vue de quoi explique. Donc, c'est un logos qui explique. Toujours, quand vous faites quelque chose, et qu'on vous dit, qu'est-ce que vous faites? Je fais ceci. Pourquoi faites-vous ça? Vous expliquez. Le en vue de quoi explique. Donc, il est logos. Et le logos est principe. Très intéressant à bien voir. Et là, on retrouve causalité finale, principe. Aussi bien dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Alors, comme toujours, le raisonnement d'Aristote, tout le temps, art et nature. Tout le temps. Oui, ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, ceux qui ne voient pas ça du tout, vous voyez, disent, vous voyez la philosophie de la nature d'Aristote. C'est pas vrai. Et pour nous, c'est très intéressant, vous voyez, de voir ça. Parce que ça montre que la scolastique, quand elle a vu la philosophie de la nature comme le premier selon génétique, on m'a dit ça, moi, quand j'ai commencé mes études. Et ça, c'est la scolastique. C'est pas vrai. Le premier sur l'ordre génétique, c'est la philosophie de l'art. Qu'on n'a plus du tout enseigné. En scolastique, il n'y a pas de philosophie de l'art, ça ne s'enseigne pas. Alors on a perdu le premier analogué. Si on a perdu le premier analogué, on ne comprend plus rien du tout. D'où la distinction matière et forme est devenue comme la distinction fondamentale. Alors qu'on devrait dire la distinction matière et forme est la distinction première selon l'ordre génétique. Et à partir de quoi on va voir toute chose, vous voyez. Donc quand je ramène en vue de quoi au logos, je le ramène à la forme. Parce que le logos c'est la forme. En premier lieu. La fin est logos dans la mesure où dans la fin, il y a une forme. Et bon, aussi bien dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Le médecin commence par déterminer, soit par raisonnement, soit par observation. Donc les deux sources de détermination. C'est aussi très intéressant. Et tout, c'est ça, c'est très, très bien. Le médecin commence par déterminer, soit par raisonnement, un petit raisonnement, soit par observation. Alors on dit raisonnement, on ne dit pas c'est une induction. Il commence par déterminer ce qu'est la santé. L'architecte, ce qu'est la maison. Donc l'analogie entre la santé et la maison. L'architecte détermine ce qu'est la maison. Couvent des sœurs, la maison. Il faut construire une maison. Un lieu habitable. Et un lieu habitable en vue de la sainteté. Et donc le logos prend quelque chose de particulier à ce moment-là. Parce que c'est en vue de la sainteté. Remarquez, pour toute famille chrétienne, c'est en vue de la sainteté. Et c'est vrai, on construit différemment une maison chrétienne, une maison non chrétienne. Oui. Si on veut comprendre un peu. Ils rendent compte par là des raisons et des causes de leur démarche. Ils rendent compte et du pourquoi de leur action. Or, il y a davantage de finalité et de beauté dans les œuvres de la nature que dans les fabrications humaines. Ça aussi, c'est très intéressant. Si je saisis en premier lieu la finalité dans les œuvres d'art, la finalité est plus profonde dans la nature que dans l'œuvre. Biologie, c'est très intéressant. Pour les rapports entre la philosophie du vivant et la biologie. D'autre part, la nécessité à laquelle certains s'efforcent de réduire à peu près toute raison. Faute de distinguer les acceptions diverses de nécessité. Ne se rencontre pas de façon identique dans toutes les œuvres de la nature. Nécessité absolue dans les êtres éternels. Nécessité conditionnelle dans tous les êtres soumis au devenir. De même que dans les objets artificiels, maisons, ou quoi que ce soit de semblable. Telle matière est nécessaire si telle maison peut être réalisé, ou quelque autre fin, il faut que ceci soit produit et transformé. Et ceci encore, et ainsi de suite, sans interruption, jusqu'à la fin, jusqu'à ce en vue de quoi chaque chose est produite et existe. Donc vous voyez ça, ce raisonnement très important. Il y a philosophie là où il y a nécessité. Puisque philosophie implique épistémé, science. C'est ce que cherche le savant, il cherche la nécessité. Eh bien, on doit tout le temps se rappeler qu'en philosophie, il y a deux sortes de nécessité. Une nécessité une nécessité qui vient de la forme, une nécessité qui vient de la fin. Oui, et bien comprendre que la nécessité dans la forme, c'est dans les êtres éternels. La nécessité qui vient de la fin, c'est dans tous les êtres qui ont une finalité. Alors c'est une nécessité conditionnelle et non pas absolue. Vous avez donc le nécessaire absolu et le nécessaire conditionnel. Mais le nécessaire conditionnel suffit pour une philosophie. Pareillement, dans ce que produit la nature, mais la forme et la démonstration et de la nécessité, la forme de la démonstration et de la nécessité n'est pas la même dans la science de la nature et dans les sciences théorétiques. On l'a exposé dans d'autres ouvrages sur ce sujet. Alors en effet, que dans les unes, c'est ce qui est le principe, dans l'autre, c'est ce qui doit être. Ce qui doit être, oui, bien, mais c'est conditionnel à cause de la fin. Et l'autre, la nature, c'est la forme. Donc, toujours ces deux nécessités. Hein. Ainsi, c'est parce que la santé de l'homme est telle chose qu'il est nécessaire que telle chose existe ou se produise. Et ce n'est pas parce que telle chose existe ou se produit que nécessairement la santé s'en suivra. C'est important, oui. Causalité efficiente ou causalité finale. Le raisonnement qui se prend par la causalité finale et le raisonnement qui se prend par la causalité efficiente. Il n'est pas possible non plus de ramener à l'éternel la nécessité d'une démonstration de ce genre, de manière à pouvoir dire que, puisque telle chose existe. Cela a été précisé ailleurs, de même qu'ont été déterminés les êtres où se rencontrent nécessité et réciprocité, et pour quelle terre, et pour quelle cause. Mais ce qu'on ne doit pas passer sous silence, c'est la question de savoir s'il faut exposer, comme ont fait nos prédécesseurs dans cette étude, plutôt la genèse des êtres que leur constitution. Là, c'est très actuel, vous voyez. Est-ce qu'il faut expliquer la genèse par la causalité efficiente ou la constitution par la causalité formelle, la nature? La structure, la constitution. Oui.
Qu'est-ce qu'il veut dire par réciprocité, par la nécessité de réciprocité?
Oui, c'est fin et matière. Une certaine réciprocité entre les deux. Oui. Ce qu'il avait dit précédemment par le point de vue de la causalité efficiente. Oui. Vous donnez tel remède en vue de la santé. Vous donnez ce remède, la santé viendra sûrement. Certaine réciprocité. Mais faisons attention à la réciprocité, hein, pour la comprendre. Justement, n'allez pas dire je vous donne ce remède en vue de votre santé, je vous donne ce remède, nécessairement vous serez guéri. Oui. Pour pouvoir dire ça, il faudrait connaître tous les éléments. Tandis que pour découvrir le moyen, la nécessité du remède, il suffit de connaître la finalité. Mais si vous ne connaissez plus la finalité, vous connaissez tous les éléments.
On sait qu'il y a une nécessité au point de vue formel, au point de vue de la
vie. Tout à fait, tout à fait. Toujours les deux nécessités, la structure et la fin. Et la nécessité de la fin est beaucoup plus souple. Grâce à la fin, vous pouvez agir. Autrement, vous ne pourrez jamais agir. Et c'est la finalité qui justifie, comme pour l'art. Ça, je crois que c'est très important de bien voir ça, oui.
Est-ce qu'on peut faire le même raisonnement pour les sciences en tant pour les sciences humaines, l'histoire, la sociologie.
La finalité.
Oui, non, il n'y a pas de nouvelle finalité, mais il y a une nécessité du côté de la forme.
Quelle forme? Pour les sciences humaines d'aujourd'hui, vous voyez. Je parle des sciences humaines d'aujourd'hui, pas la philo. Pour la philo, il y a toujours la forme. Qu'on saisit ou qu'on saisit pas. Hein. On a saisi quand même la cause formelle. L'âme, pour le vivant. Mais comme vous connaissez très mal la forme, vous voyez, comme la forme du cheval. Analogiquement par rapport à l'homme. Mais pas autrement. Là, il y a une espèce de va-et-vient constant, vous voyez. Et je crois que c'est ça qui fait comprendre comment la finalité permet certaines audaces, la rectification par la finalité. Dans l'ordre pratique, hein, même dans l'ordre de la connaissance, et que le point de vue formel, il n'est pas premier. Je crois que seule en métaphysique, la causalité formelle commande la découverte de la substance. Oui.
Si la cause formelle n'est pas dépassée par la cause finale, on régresse nécessairement à la cause déficiente.
Si la causalité.
Si la cause formelle n'est pas ordonnée à la cause finale, on régresse nécessairement à la cause déficiente.
Tout à fait. Et on a dans l'ordre des possibles, il faudrait connaître tous les possibles de la cause efficiente. Et vous ne les connaissez jamais. À cause du reste de la matière qui est toujours un principe de rupture ou un principe accidentel. Il semble donc que le point de départ doit être, comme on l'a dit précédemment, de recueillir les faits. Bon, je reprends un petit peu avant. Mais ce qu'on ne doit pas passer sous silence, donc Aristote insiste, c'est la question de savoir s'il faut exposer, comme ont fait nos prédécesseurs dans cette étude, plutôt la jeunesse des êtres, que leur constitution. Vous voyez, nous, c'est pas seulement les prédécesseurs, c'est les actuels. Mais psychologiquement, quand vous ne connaissez pas et que vous avez beaucoup de peine à connaître la structure, vous expliquez par la jeunesse. Vous avez eu un père autoritaire. Ça explique tout. Vous voyez, par la jeunesse, par l'aspect génétique. Parce que vous n'arrivez pas à saisir directement. Si vous saisissiez directement, vous ne serez pas obligé de faire ça. Ça, c'est sûr. Oui, donc, c'est une fuite. C'est rhétorique. C'est pour dire quelque chose. Comme ont fait nos prédécesseurs dans cette étude, plutôt la genèse des êtres que leur constitution. Car la différence n'est pas petite entre ces deux procédés. Vous voyez bien tout de suite, et ça c'est très intéressant, parce que ça explique tout notre monde d'aujourd'hui. Vous croyez connaître par l'aspect génétique, mais vous ne connaissez pas, c'est la cause efficiente. Pour connaître vraiment, il faut connaître la détermination, le logos. Par l'aspect génétique, vous ne connaissez pas le logos. Pas le logos. Le logos, c'est la forme et la fin. Voilà. Oui.
Est-ce que le structuralisme, c'est pas d'essayer ce qui est que la forme?
Oui, il essaie, mais le structuralisme n'arrive pas. Il tombe dans le point de vue logique. Oui.
Après, je vois pas comment la fin donne un logos, par exemple en médecine.
À la santé. Demandez à tout médecin.
Je peux avoir très bien l'intention de. J'ai l'intention de guérir.
Mais ça... Ah, c'est pas vous l'intention de guérir, c'est la recherche du médecin. C'est pas vous, vous n'êtes pas médecin, vous êtes le patient.
Non, mais si je suis médecin.
Ah, si vous êtes médecin.
Ça ne me donne pas du tout
Ah, mais oui. Quoi, qu'est-ce que c'est que la santé? C'est pas un logos?
Ça me donne pas du tout les remèdes.
Ah, ça ne vous donne pas les remèdes, mais c'est pas ça qui est premier. C'est savoir où vous devez aboutir. Puis vous cherchez ensuite les moyens.
Est-ce qu'on regarde en premier lieu la maladie, la privation, et non pas la finalité? On est condamné
aujourd'hui
à retomber dans les causes efficientes.
Si vous ne regardez plus la finalité, vous regardez la privation. Et vous ne la connaissez pas, donc vous appelez la cause efficiente. Et vous vous basez constamment sur la cause efficiente. Dans une expérimentation. Vous cherchez l'effet de tellement remède. Si vous regardez la finalité, vous connaissez par la finalité beaucoup mieux la privation. Je tends vers quelque chose de positif. La privation ne donne jamais la cause finale. Et la privation m'oblige de regarder le point de vue de l'efficience. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de science de la maladie, au sens absolu. Il y a une science philosophique du vivant, donc de l'homme vivant. Dans toute sa complexité, dans toute son unité. Mais au sens strict, il n'y a pas de science de la maladie, puisque la maladie est une privation. Mais il y a des voies pratiques d'accès pour guérir, que vous recherchez. Oui.
Mais l'exemple de la médecine, c'est là, mais dans la réalité physique, la finalité est beaucoup plus difficile.
Beaucoup plus difficile, bien qu'elle soit beaucoup plus forte. Oui, elle est plus immanente. Oui, elle est plus cachée.
Est-ce que l'efficience est plus facile à trouver dans le monde physique que la finalité?
Ah oui, sûrement. Beaucoup plus. C'est ce que vous voyez immédiatement. La finalité, vous devez toujours un peu, voyez, l'induire. Tandis qu'au contraire, l'efficience, vous la touchez. Vous la voyez, vous la constatez. Il semble donc que le point de départ doit être, comme on l'a dit précédemment, de recueillir les faits en chaque genre, pour exposer ensuite leurs causes, enfin leur genèse. On n'exclut pas la genèse. Puis ça vient après, c'est pas premier. Alors que, constamment, dans le freudisme, c'est la genèse qui est première. Et vous vous l'expliquez par la genèse, donc par la cause efficiente. C'est cet ordre qui s'impose plus manifestement, en effet, dans l'art de construire lui-même. C'est parce que la forme de la maison est telle chose, parce que la maison est telle chose, qu'elle est produite de telle manière, car la genèse est en raison de la réalité et non la réalité en raison de la genèse. Ça sont des phrases lapidaires d'Aristote. Tu vas se rappeler ça. La genèse est en raison de la réalité et non la réalité en raison de la genèse. C'est pourquoi Empédocle s'est trompé en disant que beaucoup de traits se rencontrent chez les animaux. Parce que cela est arrivé ainsi dans le processus de genèse. Par exemple, ils ont l'épine dorsale ainsi faite, parce que dans un mouvement de torsion, il est arrivé de se briser. Oui, causalité, ça. Alors, impliquez ça au point de vue psychologique, oui. Il voit très très bien. Il oublie, en premier lieu, qu'il faut que le sperme constituant possède une puissance appropriée. Ensuite, que le producteur doit exister avant le produit, non seulement selon une priorité logique, mais aussi selon le temps. L'homme engendre l'homme. Et c'est parce que le producteur est constitué de telle manière qu'une telle genèse se passe de cette façon précise. Pareillement, pour ce qui paraît être le fruit d'une génération spontanée, tout se passe comme pour les produits de l'art. Car il y a certaines choses qui se produisent spontanément et qui sont semblables à ce que fait l'art humain, ainsi la santé. En certaines choses préexiste un agent de même ordre. Par exemple, l'art de sculpteur dans les statues. Il n'y a pas là de génération spontanée. Or, l'art, c'est l'idée. C'est l'idée de l'œuvre. L'idée qui existe en matière. De même, provient du hasard. Tout s'y produit comme dans l'art. C'est pourquoi il faut dire avant tout que c'est l'essence de l'homme qui commence sa constitution. Oui, donc la nature de l'homme qui commence sa constitution. Voyez, c'est pourquoi il faut dire avant tout, vous prenez Dio Malista, Menecton os epeide, tuto ento anthropoinein. Oui, c'est pour ça que c'est toujours très très mal traduit l'essence de l'homme. Cette formule beaucoup plus précise, Aristote, ce qui est l'être à l'homme. L'être à l'homme. Et l'être à l'homme, c'est quoi? C'est sa quiddité. J'aime mieux dire quiddité que essence. Oui. C'est-à-dire son intelligibilité profonde, c'est ça? C'est pourquoi il faut dire avant tout que c'est la quiddité de l'homme qui commande sa constitution. Il n'est pas possible qu'il existe sans telle ou telle partie, sans ces parties, à tout le moins sans quelque chose qui s'en rapproche, ou bien il y a impossibilité absolue à ce qu'il existe autrement, ou bien c'est seulement de cette façon qu'il est bien. Tout cela se tient. Et c'est précisément parce qu'il a telle nature que sa genèse se produit de telle façon et qu'elle est nécessairement ce qu'elle est. C'est pourquoi telle partie apparaît la première, puis telle autre. Il en est ainsi pour tous les êtres de constitution naturelle. Les anciens et ceux qui ont commencé à philosopher sur la nature faisaient porter leur examen sur la matière, sur la cause matérielle, sa nature et ses propriétés. Il se demandait comment l'être complet en provenait et sous quelle impulsion, haine par exemple, ou amitié, ou intelligence, ou mécanisme spontané. La matière sous-jacente possédant nécessairement telle nature, chaude pour le feu, froide pour la terre, ou légère ou lourde. C'est ainsi qu'ils font la genèse du monde. Ils exposent de même celle des animaux et des plantes. Ils disent par exemple que le flux de l'eau dans le corps explique la formation de l'estomac et de tout réceptacle de nourriture ou de déchets, que le passage du souffle a percé les narines. Non, vous avez tout à fait le point de vue de la cause efficiente qui explique la forme. Or, l'air et l'eau sont la matière des corps. Et c'est avec ces corps que tous construisent la nature. C'est donc l'homme, les animaux et leurs parties sont des êtres naturels. Il faudrait traiter de la chair, de l'os, du sang et de toutes les parties indifférenciées. De même au sujet des parties différenciées, visage, mains, pieds, il faudrait dire leur nature propre et leur rôle. Il n'est pas suffisant en effet de dire de quoi tout cela est fait, feu ou terre. Si nous avions en effet à parler d'un lit ou d'un objet de ce genre, nous chercherions à déterminer sa forme plutôt que sa matière, airain ou bois, ou au moins la matière de l'ensemble. Car un lit, c'est telle chose dans telle matière, telle chose caractérisée de telle façon. Il faut donc parler de sa configuration et dire ce qu'est sa forme. Donc vous voyez, hein, comment Aristote montre que toujours, ce qui constitue la connaissance scientifique, où est le nécessaire, se prend de la forme et de la fin. Je crois qu'en définitive, c'est ça qui montre, parce que la matière et l'efficience ne suffisent pas. L'efficience, si elle est finalisée, très bien, parce que par la fin, la forme est présente. Et l'efficience de court, non. Et la matière de court, non. Alors, il renvoie promener donc tous ses prédécesseurs, hein, de la même façon. Dans Platon, c'est la cause formelle, mais exemplaire. Ça, je crois qu'Aristote traite après. La nature formelle, donc la phusis morphène, a plus d'importance que la nature matérielle. Igar katoten morphen phusis coriotera tes ou les caisses phuseos. Donc la nature matière, la nature matérielle. À vrai dire, si c'est dans la configuration extérieure et dans la couleur qu'on consiste chacun des animaux et chacune de leurs parties, Démocrite a raison. Car c'est là, semble-t-il, son postulat. Mais très très astucieux la manière dont il regarde les prédécesseurs. Hein. C'est ça qu'on a trouvé intolérable. Parce que ce n'est pas historique comme critique. C'est une critique en raison de sa recherche des causes. Pour montrer la faiblesse d'un Démocrite. À vrai dire, si c'est la configuration, ento schemati, schemati, configuration, schéma, schemati, et to chromati, dans la couleur, que chacun est des animaux ou de leur partie. Donc, à vrai dire, si c'est dans la configuration, le schème extérieur et la couleur que consiste chacun des animaux et chacun et chacune de leurs parties, Démocrite a raison. Car c'est là, semble-t-il, son produit, son postulat. Il déclare donc que tout le monde voit bien ce qu'est la forme de l'homme, puisque c'est la structure extérieure et la couleur qui la font connaître. Pourtant, le mort aussi présent, oui, pardon, Pourtant, le mort présente aussi le même aspect extérieur. Et avec cela, il n'est pas un homme. Oui, c'est pour montrer la différence entre la forme et le schéma. Eidos, morphé, schéma. Schéma, c'est l'aspect descriptif. Je prends l'exemple du mort. Au moment de la mort, le corps reste le même. Schéma. C'est pas la morphée. Oui. Oui, si vous voulez, c'est le figurant. Mais oui, c'est le figurant, on pourrait dire. Le figurant étant un accident. Oui. Pourtant, le mort aussi présente le même aspect extérieur. Et avec cela, il n'est pas un homme. Impossible aussi qu'existe une main qui soit composée de n'importe quoi. Une main en airain, par exemple, ou en bois, sinon au prix d'une équivoque. De même que pour le médecin en peinture. Vous allez demander le médecin. On présentera la peinture. Cette main ne pourra pas en effet remplir sa fonction, pas plus que des flûtes de pierre ne pourront remplir la leur, ou le médecin dessiné. Pareillement, aucune partie d'un cadavre n'est encore ce qu'elle était, par exemple l'œil ou la main. Ces déclarations sont donc vraiment simplistes. C'est comme si un charpentier parlait d'une main de bois. Pour le charpentier, la main, c'est une main de bois. Vous voyez, pour le charpentier, ce qu'il peut faire. Et c'est bien ainsi que les physiologues parle de la genèse et des causes de la structure. Sans doute, c'est à certaines forces qu'est due leur organisation. Le charpentier parlerait également de sa hache ou de sa tarier, comme eux font de l'air et de la terre. Seulement, il parlerait mieux. Et il ne lui suffirait pas de dire qu'au contact de son outil se produit tantôt un trou, tantôt une surface plane. Mais il dirait aussi pourquoi il a donné tel coup en vue de quoi. Il dirait la cause qui fait que telle ou telle chose prend sa forme. Ce qui manifeste que ces naturalistes ont tort ou il faut parler de la nature d'un animal, de ce qu'il est, de ses qualités, de chacune de ses parties, comme on parle de la forme d'un lit. Donc vous voyez, c'est très très curieux et c'est très intéressant. Parce que là, Aristote montre tout de suite hein, la diversité analogique entre la nature et l'art. Dans l'art, on saisit le schéma, la forme extérieure. Dans la nature, on ne peut pas rester à cela. On doit découvrir le principe, la nature. Alors maintenant, on va arriver au sujet direct qui nous intéresse. Or, cela, c'est l'âme. Or, cela, c'est l'âme, ou une partie de l'âme, ou au moins ce qui n'existe pas sans âme. L'âme disparue, il n'y a plus d'animal, et aucune des parties ne demeure la même, sinon seulement par la configuration extérieure, schéma. Comme ceux qui, dans la légende, ont été changés en pierre. S'il en est ainsi, il appartiendra au naturaliste de parler de l'âme et d'en avoir la science. Et sinon de toute âme, du moins de ce qui fait l'animal ce qu'il est. Le naturaliste doit connaître ce qu'est l'âme, ou cette partie spéciale de l'âme, et tout ce qui accompagne son essence. D'autant plus que la nature se dit en deux sens, la matière et la substance. Donc vous voyez l'application ici, pour montrer qu'on ne peut pas ramener l'âme au schéma.
cours de philosophie de la matière par le père Philippe à Rimont, le 4 janvier 1989.
Alors nous continuons, sauf si vous avez des questions à poser, hein, n'hésitez pas, parce que c'est une matière un petit peu difficile. On voit ce que dit Aristote, évidemment. C'est pas toujours commode, hein, à voir clair. On voit l'ensemble. Mais on est arrivé, donc, je crois, au numéro 641A17-18. C'est bien ça, hein? Je relis quelques pages, quelque chose avant. Vous voyez, ces déclarations sont donc vraiment simplistes. C'est comme si un charpentier parlait d'une main de bois. Et c'est bien ainsi que les physiologues parlent de la genèse et des causes de la structure. Qu'est-ce qu'il dirait Aristote, d'après Kant? Il dirait qu'ils sont simplistes. Il n'y a rien de plus simpliste que Kant. Sans doute, c'est à certaines forces qui est due leur organisation. Le charpentier parlerait également de sa hache et de sa tarière, comme eux font de l'air et de la terre. Seulement, il parlerait mieux. Il ne lui suffirait pas de dire qu'au contact de son outil se produit tantôt un trou, tantôt une surface plane, mais il dirait aussi pourquoi il a donné tel coup et en vue de quoi. Il dirait la cause qui fait que telle ou telle chose prend sa forme. Ce qui manifeste que ces naturalistes ont tort et qu'il faut parler de la nature d'un animal, de ce qu'il est, de ses qualités et de chacune de ses parties, comme on parle de la forme d'un lit. Donc Aristote rappelle que la cause matérielle n'explique rien. C'est tout simplement ça. La cause matérielle, dans tous les domaines, la cause matérielle n'explique rien. Seule la causalité finale est logos, donc explication. Ce qu'il disait des points de départ quand il parlait de la cause formelle, du moins de la cause, la nature forme, phusis morphe. Mais on devrait toujours traduire comme dit Aristote, je ne sais pas pourquoi on a cette manie de traduire autrement. C'est la nature selon la forme, le kata, je crois que c'est très important. Vous voyez ? Parce que ça, c'est la scolastique qui dit cause formelle. Aristote n'est jamais cause formelle. Il dit la nature selon la forme. C'est pas la même chose. C'est le choriotera tes ulikes fuseros. Donc la nature selon la forme a plus d'importance que la nature matérielle. C'est la grande affirmation du début, hein, ce qu'on avait vu la dernière fois. À vrai dire, si c'est dans la configuration extérieure et dans la couleur que consiste chacun des animaux et chacun de leurs parties, Démocrite a raison. Car c'est là, semble-t-il, son postulat. Ça, alors, il faut regarder tout Démocrite pour voir comment Aristote l'a ramé. C'est les atomistes. Il déclare donc que tout le monde voit bien ce qu'est la forme de l'homme, la morphe, puisque c'est la structure extérieure et la couleur qui la font connaître. Pourtant, le mort aussi présente le même aspect extérieur. Et avec cela, il n'est pas un homme. Impossible aussi qu'existe une main qui soit composée de n'importe quoi, une main en airain par exemple, ou en bois, sinon au prix d'une équivoque. De même pour le médecin en peinture. Mais cette main ne pourra pas en effet remplir sa fonction. Pas plus que des flûtes de pierre ne pourront remplir la leur, ou le médecin dessiné. Pareillement, aucune partie d'un cadavre n'est encore ce qu'elle était. par exemple l'œil ou la main. Ces déclarations sont donc vraiment simplistes. Ramener la cause matérielle à la forme, ce que font les atomistes, c'est simpliste. C'est le positivisme, hein ? Puisque Aristote tirait du positivisme, hein ? C'est exactement le positivisme. Ne pas chercher la cause selon la forme, c'est simpliste. Bon. C'est important de se voir ce petit jugement d'Aristote. Hein. Alors, or, cela, c'est l'âme. Ce qu'est-ce ? Ou une partie de l'âme, ou au moins ce qui n'existe pas sans âme. La suppression de la cause selon la forme supprime l'âme. Les atomistes suppriment l'âme, parce qu'ils ne font que décrire les déterminations secondaires. Et décrire les déterminations secondaires, ce qu'on appelle le point de vue, le schéma, la figura, ou les couleurs, c'est les déterminations secondaires. Et bien ça, c'est la suppression de l'âme, puisque l'âme est un principe, une source, des déterminations, quelque chose de radical. Or, cela, c'est l'âme, ou une partie de l'âme, ou au moins ce qui n'existe pas sans l'âme. L'âme disparue, il n'y a plus d'animal. Et aucune des parties ne demeure la même, sinon seulement par la configuration extérieure, comme ceux qui, dans la légende, ont été changés en pierre. S'il en est ainsi, il appartiendra aux naturalistes de parler de l'âme et d'en avoir la science. Et sinon de toute âme, du moins de ce qui fait l'animal ce qu'il est. Le naturaliste doit connaître ce qu'est l'âme, ou cette partie spéciale de l'âme, ou tout ce qui accompagne son essence. D'autant plus que nature se dit de deux sens, la matière et la substance. La substance ici est prise pour la forme, vous voyez ? Nettement, la nature forme. C'est cette dernière qui joue le rôle de moteur et de fin. C'est cela qu'est l'âme de l'animal, ou tout entière, ou une partie d'elle-même. Ainsi, il faut, dans l'étude de la nature, insister davantage sur l'âme que sur la matière. Il réaffirme un peu toujours la même chose. Hein. Dans la mesure précisément selon laquelle c'est par l'âme que la matière est nature, et non l'inverse. En effet, le bois n'est lit et trépied que parce que cela est en puissance. À réfléchir sur ce qui vient d'être dit, on pourrait se demander s'il appartient à la science de la nature de traiter de toute l'âme, ou bien seulement d'une sorte d'âme. Si c'est de toute âme, aucune partie de la philosophie ne restera en dehors de la science naturelle. En effet, l'intelligence est relative aux intelligibles. Il s'en suivrait donc que la science naturelle devrait s'étendre à tout, car il appartient à la même science d'étudier intelligence et intelligible, puisqu'ils sont relatifs l'un à l'autre, et que les choses relatives les unes aux autres sont la vue d'une science unique, ainsi sensation et sensible. Ou bien, ce n'est pas l'âme tout entière qui est principe de mouvement, ni toutes ses parties, mais ce qui existe dans les plantes elles-mêmes. Mais ce qui existe dans les plantes elles-mêmes est principe de croissance, la faculté de sentir de l'altération. Autre chose est principe du transport, ce n'est pas l'intelligence, car on trouve le transport en d'autres animaux et aucun d'eux ne peut posséder la raison. Il ressort donc de cela qu'il n'y a pas à traiter de toute âme. Toute âme n'est pas nature, mais seulement une partie de l'âme, ou plusieurs. autre chose. Leurs objets abstraits ne peuvent concerner la science naturelle, puisque la nature fait tout en vue d'une fin. Donc vous voyez, la question posée, c'est de savoir si la science naturaliste, c'est-à-dire la philosophie de la nature, traite de toute âme. Puisqu'Aristote met dans la philosophie de la nature le traité du péripsychèse. Or, c'est dans le péripsychèse qu'il montre très bien que l'âme spirituelle est séparée. Oui, là on voit bien le terme séparée de la philosophie de la nature. Ça regarde quelque chose d'autre. Pourquoi ? Parce que le nous, l'intelligence, n'a pas d'organe. L'intelligence n'ayant pas d'organe, bien, est au-dessus de la philosophie de la nature. Donc, l'âme qui étudie la philosophie de la nature, c'est uniquement l'âme végétative. Et l'âme sensible. Voilà, l'âme séparée. De même donc que dans les objets artificiels réside l'art, de même dans les choses elles-mêmes se manifeste un autre principe, une autre cause de ce genre que nous rencontrerons comme la chaleur et le froid dans l'univers. C'est pourquoi il y a encore plus de raisons d'attribuer à une cause de ce genre l'origine du ciel, s'il a une origine, et de déclarer qu'il existe en vertu de cette cause, que d'expliquer ainsi l'origine des êtres mortels, car l'ordre et la détermination apparaissent davantage dans les êtres célestes que parmi nous, tandis que les variations et le hasard se manifestent davantage dans les mortels. Ces philosophes, pourtant, assurent que chacun des animaux existe et naît par nature, tandis que le ciel se trouve organisé tel qu'il est par hasard, mécaniquement, lui en qui n'apparaît aucune trace de hasard et de désordre. Nous déclarons donc que ceci est en vue de cela, partout où se manifeste un terme vers lequel se dirige un mouvement, s'il n'y a pas d'obstacle. Oui, la manifestation de la cause finale. Comment on découvre la cause finale, là où se manifeste un terme vers lequel se dirige un mouvement. Donc l'orientation d'un mouvement nous fait découvrir la cause finale, la détermination d'un mouvement. Par suite, il est évident qu'il existe un principe de ce genre que nous appelons nature. En effet, n'importe quoi ne naît pas de n'importe quoi, et de n'importe quelle semence ne provient pas de n'importe quel corps. La semence est donc principe et agent à l'égard de ce qui provient d'elle. Ce rejeton est naturel, il naît de cette semence. Ça ne vous dérange pas de baisser la chose. Soleil. Non, ça va, ça. Là, une espèce d'importance. Ah, ça va tourner, vous croyez. Soleil, arrête-toi. Donc, mais l'être de qui provient la semence est encore antérieur. La semence est devenir, le terme est réalité. C'est bien ça c'est très intéressant dans le langage d'Aristote. Hein. La semence est devenir, le terme est réalité. Mais ce d'où vient la semence est antérieur à l'un et à l'autre. Il y a en effet deux choses à considérer dans la semence. D'où elle vient, de quoi elle germe. En effet, la semence provient bien de l'être duquel elle procède. semence du cheval par exemple. Elle est bien aussi à l'être qui proviendra d'elle, par exemple semence de mulet. La semence n'est pas de l'un et de l'autre de la même façon, le terme convient aux deux. C'est sûr, parce que c'est ce qui finalise les deux. Ajoutons que la semence est en puissance, et nous connaissons le rapport de puissance à Antelekeia. Donc, oui. Sperma. Sperma d'une ameille. Dynamis. Os ekei pros Antelekeian ismen. Il y a donc deux causalités, la finalité et la nécessité. Ça, c'est très... La finalité et la nécessité. Et beaucoup de choses se produisent par nécessité, et on pourrait se demander, sans doute, de quelle nécessité parle ceux qui y ont recours. On l'a déjà vu. On a déjà vu cette question d'Aristote. Hein. La nécessité, ça ne suffit pas. Il faut qualifier la nécessité. La nécessité tout court, c'est la nécessité logique. Mais en philosophie, il faut qualifier la nécessité. Mais de quelle nécessité parle ceux qui en ont recours? Des deux modes nécessaires. Des deux modes nécessité définis dans le traité de la philosophie. Aucun n'est possible ici. Des deux modes nécessité définis dans le traité de la philosophie. Aucun n'est possible ici. Il y a donc un troisième mode, précisément dans le domaine du devenir. En effet, nous disons que la nourriture est nécessaire et il ne s'agit alors d'aucun des deux modes précédents. Mais cela veut dire qu'on ne peut pas s'en passer. Nécessaire, c'est ce qui est nécessaire à vivre, quoi. La nécessité de manger. C'est là une sorte de nécessité sous condition. Ainsi, puisqu'il faut que la hache fende, il est nécessaire qu'elle soit dure. Et si elle est dure, il est nécessaire qu'elle soit en bronze ou en fer. De même, puisque le corps est une sorte d'outil. Alors, vous voyez, les philologues qui voient ça, disent tout de suite, voyez, ça c'est le premier Aristote, en dépendance de la conception de Platon, où le corps est organon. Je dis ça parce que ça c'est Jäger. Jäger dit ça. Venez, tout de suite. C'est vrai que c'est une expression assez curieuse d'Aristote. Est-ce que le corps est outil pour Aristote? De même, puisque le corps est une sorte d'outil, elle ne dit pas un outil, mais une sorte d'outil. L'ensemble, comme chaque partie, est en vue de quelque chose. Il est nécessaire, pour qu'il soit cet outil, qu'il soit fait de telle manière et composé de telle matière. Pour être un outil comme la hache, il est nécessaire qu'il soit fait comme ça, parce qu'il faut la hache de couper du bois. Donc il faut que la hache soit plus dure que le bois. Et donc il faut qu'elle soit de bronze et de fer. Et alors, on ne dit pas quel est exactement ce genre d'outil qu'est le corps. Et c'est à partir de la finalité qu'on va comprendre la nécessité de la matière.
Et comment la nécessité comme telle peut être considérée comme une causalité en elle-même?
Oui, c'est très curieux.
Alors, il semblerait que...
Condition sine qua non.
Oui, ou il semblerait que la nécessité, ce soit une causalité en regardant la matière.
Oui.
Tel type de matière,
exactement, tout à fait.
Mais,
pour produire tel effet, il faut telle matière.
Oui.
Oui.
Mais de là à identifier, au point de vue terme, causalité et nécessité, c'est un peu, c'est pas très courant, je suppose.
Non, non, et puis c'est pas... Ça peut se discuter, on dit ça. Parce que c'est la condition sine qua non, en réalité. C'est la causalité du côté de la matière, tu as conscience. Alors voyez, comme Kant est proche, qu'est-ce que c'est que la matière pour Kant? Condition sine qua non. Ah oui, tel qu'il est dit là, ça c'est sûr.
Mais il le met au même plan que la finalité.
Non, pas au même plan. Ah non, non, non.
Non, non, pas au même plan, je m'exprime mal.
Contraire.
La causalité, la finalité, la nécessité.
Oui.
Dit comme ça, on a l'impression que...
Ah oui, 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 oui. Oui, mais ça, oui, 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 ça m'a exprimé. Après, un peu matériellement, c'est comme ça. Mais au fond, en réalité, cette nécessité provient de la finalité. Une nécessité dans la matière. Pour aller rapidement à Paris, comme il reste une heure et demie pour y aller, il faut que je prenne le TGV. Le TGV apparaît comme nécessité. Si tu restes comme ça qu'on vit, constamment. Et Kant fera de la cause matérielle, de la matière, une nécessité. C'est pas autre chose que ça, la cause matérielle, pour lui. Alors que pour Aristote, la cause matérielle n'est pas uniquement une condition sine qua non. C'est une vraie causalité. Une causalité en puissance, mais une vraie causalité. De la nécessité. Ec. Il y a deux causalités, la finalité et la nécessité. Et le to ex ananques. Ananques. Le ce qui est de la nécessité. Vous voyez ? Ce qui provient de la nécessité. Et ce qui sera la finalité, sera la cause finale, la cause matérielle. Ce qui s'impose à nous. On pourrait dire ça, qui s'impose à nous. Il y a par conséquent deux sortes de causalités. Et lorsqu'on en traite, il faut absolument rendre compte des deux. Si cela n'est pas encore évident, il faut s'efforcer de le rendre tel. Ça, tu sais, qu'on a des têtes dures. Il est évident aussi que ceux qui ne traitent pas de ces deux causalités ne disent pas un mot de la science naturelle. Non, c'est bien, hein ? Ne disent pas un mot de la science naturelle. Alors, science au sens philosophie. Il n'y a pas la distinction entre les deux. Car c'est la nature qui est principe plutôt que la matière. Donc, la nature selon la forme. Empédocle lui-même, parfois, se trouve en revenir là, poussé qu'il est par la vérité elle-même. Donc tout ce qu'Empédocle dit qu'il est conforme à Aristote, c'est parce qu'il est poussé par la vérité. Poussé qu'il est par la vérité elle-même. Et il est forcé de dire que la substance et la nature sont raison. Ainsi, lorsqu'il rend compte de la nature de l'eau, il n'a pas recours alors à l'un des éléments, ni à deux, ni à trois, ni à tous. C'est à la raison du mélange. Il est clair qu'il en est de même pour la chair et chacune des autres parties du corps. Donc la réduction aux éléments n'explique rien. C'est pas le logos. C'est l'absence d'une doctrine définie sur l'essence et la substance. Démocrite a touché le premier. Ce n'est pas qu'il trouva cela nécessaire à la science naturelle, mais il était poussé par la réalité elle-même. Avec Socrate, il y eut progrès. et les recherches sur la nature furent alors négligées. Et les philosophes tournèrent leur attention vers les vertus utiles à la politique. Bon, vers les vertus utiles et la politique. Ça, c'est très intéressant. Hein, très intéressant de voir le tournant qui s'opère avec Socrate. On ne recherche plus la nature, on recherche les vertus. Oui, l'aspect subjectif qui s'introduit dans la philosophie. Il y a une certaine subjectivité dans les vertus. Surtout quand on regarde la vertu comme excès. C'est sûr. Certaine subjectivité, puisque c'est l'équilibre entre deux contraires. Les deux passions qui permettent un équilibre entre les deux contraires. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que du lien qu'il y a entre la nécessité de la condition sine qua non et celle de la finalité, ça veut dire que la logique et la nécessité du conditionnement est un reflet de celle de la finalité?
Oui. C'est sûr.
C'est pour définir le lien entre les sciences positives qui étudient le conditionnement.
Confère Maritain. Séminaire de Maritain. C'est sûr que dans la mesure où la science absorbe la philosophie, absorption qui se fait avec Kant, qui commence avec Descartes, et qui se fait avec Kant, absorption, dans cette même mesure, la causalité ne devient plus qu'une condition sine qua non.
Et pour nous, c'est quand même un reflet de la causalité finale, la condition sine qua non.
Oui. C'est une nécessité. Et qu'on ne comprend pas ça, la causalité finale. C'est un fait autrement. Donc, tournèrent leur attention vers les vertus utiles et la politique. C'est tout, sans être curieux. Sophonès, Chrysimone, vers la vertu, pros, ten, Chrysimone, arétène. Donc la vertu Chrysimone. Il faut donc procéder de façon suivante. Pour la respiration, par exemple, montrer d'une part qu'elle existe en vue de telle fin, d'autre part qu'à l'attention de cette fin, tels moyens sont nécessaires. La nécessité signifie donc tantôt que, la fin étant telle, l'existence de certaines conditions sont requises, tandis que les choses sont ainsi et que telle est leur genèse. Il est nécessaire que la chaleur sorte et rentre par la répercussion pour que l'air circule. Voilà déjà une nécessité. D'autre part, par suite du choc de la chaleur intérieure contre le froid extérieur, l'entrée et la sortie de l'air s'établissent. Voilà donc les procédés de notre méthode. Voilà le nombre et la nature des choses dont il faut chercher les causes. Alors, on a ensuite toute une querelle. Contre la dichotomie, donc contre Platon, ça. Certains cherchent à atteindre le particulier par division du genre en deux différences. Mais ce procédé est, d'un point de vue difficile, d'autre part, impossible. En certains cas, il n'y aura qu'une différence, et les autres seront superflus. Ainsi, avec pied, à deux pieds, à pied fendu, c'est seulement la dernière différence qui est décisive. Bon, c'est le fameux procédé de dichotomie. le processus de dichotomie n'est pas philosophique. Alors vous voyez, quelle sera la différence avec le point de vue de la dialectique? C'est tout, le point de vue est là. C'est la question importante de la division. L'intelligence a la faculté de diviser. Pour Aristote, c'est capital, ça. C'est toujours la même chose. Alors, on divise le genre. Le genre est un tout. Un tout confus. Alors on le divise, ce tout confus. On divise toujours plus. Et pour bien le diviser, il faut le diviser par les deux contraires. L'un excluant l'autre. Mais c'est le tout qui, justement, est pris d'une façon abstraite. Alors, voyons bien ça. Ça, c'est une question de critique par rapport à Platon. Hein. Donc, c'est plus spécial. Aristote veut écarter cette méthode de dichotomie. Ainsi, avec pied, à deux pieds, à pied fendu. C'est seulement la dernière différence qui est décisive. Autrement, il faudrait répéter plusieurs fois la même chose. Autre chose, il ne convient pas de disloquer chaque genre, celui des oiseaux par exemple, en plaçant tel de ceci dans une division et tel dans une autre, comme on le voit dans les tableaux de division. On trouve là des oiseaux séparés d'autres et rangés parmi les êtres aquatiques. Le reste, dans un autre genre. À telle division, fondée sur telle ressemblance, on donne le nom d'oiseau. À une autre, fondée sur une autre ressemblance, le nom de poisson. D'autres restent sans nom, comme sanguin et non sanguin. Il n'y a pas en effet d'appellation commune aux deux. Si donc il ne faut pas séparer les animaux de même genre, la division en deux parties demeure inefficace. Ceux qui divisent ainsi doivent en effet nécessairement séparer, disloquer. Ainsi, certains polypodes sont rangés parmi les animaux terrestres et d'autres parmi les aquatiques. La difficulté de la méthode de division pure, laissée elle-même, pour arriver à une définition. Autre chose, c'est suivant la privation que faudra diviser. Et c'est bien ainsi que divisent les praticiens de la dichotomie. Mais il n'y a pas de différence de la privation en tant que précisément que privation. Car il ne peut y avoir des espèces de non-être. Par exemple, de l'absence de pied ou d'aile, comme il y en a de la présence du pied ou d'aile. Il faut pourtant qu'une différence générale comporte des espèces. S'il n'y en a pas, en quoi sera-t-il une différence générale et non particulière? En réalité, parmi les différences, il y en a qui sont générales ou qui comportent des espèces. Par exemple, ailées. Il y a en effet des ailes. Il y a en effet des ailes non fendues ou des ailes fendues. Pour les pieds, ça va très bien. Pour les ailes, de même, pour le fait d'avoir des pieds, il se divise en pieds à fentes multiples, en psy à fente unique, psy fourchu, psy sans fente et individu, comme les solipèdes. Il est difficile d'ailleurs de faire la répartition même suivante, les différences qui comportent des divisions, en sorte que chaque animal y soit compris, et que le même animal ne tombe pas sous plusieurs divisions. Ainsi, pour ailé et non ailé, il y a des cas où un animal est les deux à la fois, telle la fourmi, la lucicole, la luciole et d'autres. Mais cela devient extrêmement difficile ou même impossible lorsqu'il s'agit des caractéristiques négatives. Car il faut que chacune des différences s'applique à une espèce dernière et corresponde aussi par conséquent à la dernière opposée, à la différence opposée. Et montrer que la méthode de division est inféconde. Ça, Caris, ça doit montrer. Alors, en cela, voyez là, c'est une critique fondamentale à Platon. Et c'est la critique fondamentale à la dialectique. C'est la même. Ça, c'est intéressant. La dialectique vit de division. La division, comme telle, ne peut pas aboutir. Demandez pourquoi, vous comprenez, hein ? Demandez pourquoi. Si Aristote est à un point de vue de méthode, et donc il ne cherche pas tellement le pourquoi, il constate. Car il faut que chacune des différences s'applique à une espèce dernière et corresponde aussi, par conséquent, à la différence opposée. Si donc, il n'est pas possible qu'à des animaux d'espèces différentes appartiennent une seule espèce de substance indivisible. Mais s'il doit y avoir toujours une différence, par exemple entre oiseaux et hommes, la bipédalité est hétérogène et toute différente. Même en les posant tous les deux comme sanguins, puisque le sang devrait alors être différence. Autrement, il faudrait poser que le sang n'est rien d'espèce. Dans ce cas, une seule différence appartiendrait aux deux. S'il en est ainsi, l'impossible de prendre une privation comme différence devient évidente. Les différences devront être égales aux groupes indivisibles. Si ces groupes sont indivisibles, elles seront aussi indivisibles et non communes. Mais même s'il arrive qu'on trouve une différence commune qui soit d'une part indivisible, il est clair que sous cette différence commune se trouverait rangée dans la même classe des animaux qui sont différents. Il s'ensuit nécessairement que si les différences sous lesquelles se rangent les groupes indivisibles sont propres à chacune, il n'y en aura aucune de commune. Sinon, des animaux différents devraient venir sous la même différence. Or, il ne faut ni que ce qui est identique et indivisible soit placé dans plusieurs subdivisions, ni que des êtres différents soient dans la même. Animaux et divisions doivent se comprendre. Je ne sais pas si vous pigez bien, mais je ne sais pas comment de bien comprendre. Vous voyez, qu'est-ce qui se divise ? C'est toujours un tout confus. Qu'est-ce que c'est que le genre ? Le genre est un tout confus. Et au fond, c'est ça, je crois, qui fait comprendre comment la division est inféconde. Vous ne divisez jamais la réalité. Vous divisez un être de raison. Abstrait. Or, si on divise un être de raison, il n'y a pas de fécondité. La réalité, vous la constatez, elle existe. Vous ne divisez pas une réalité. Vous pouvez l'analyser. Alors, ce que toute analyse implique une division. Vous avez un tout confus qui est le genre. Est-ce qu'il n'y a pas un tout confus quand vous êtes devant une réalité existante? C'est toujours le tout qui existe. Parce que la réalité est un tout confus. Et qu'il y a du brouillard. C'est un tout confus. Alors, vous l'analysez, ce tout confus, la réalité existante, vous l'analysez. Alors, l'analyse divise le tout. Quelle différence y a-t-il entre l'analyse du genre et l'analyse... Non, la division du genre et la division qui se fait par l'analyse. Parce que ce n'est pas là qu'on verrait la différence entre la connaissance dialectique et la connaissance analogique. Vous analysez la réalité pour trouver le principe, la cause. Vous divisez le tout confus, en vue de voir les parties. Et non pas le principe. Alors, l'acte vient d'où? Quand vous divisez le genre, la division du genre, qu'est-ce qui commande la division du genre? C'est mon intelligence. C'est mon intelligence qui actue. Qui actue ce tout confus. Quand je suis en face d'une réalité existante, qu'est-ce qui actue la division? C'est la réalité existante. C'est l'acte. Alors vous voyez donc que l'actuation du tout confus vient de moi. Alors que, dans le point de vue de la réalité confuse, c'est la réalité elle-même qui impose sa division. Je crois que c'est là la grosse différence. Oui.
À quoi sert la logique alors?
Qu'est-ce qu'il y a?
À quoi sert la logique?
La logique.
Donc ça ne sert pas en philosophie.
La logique ne sert pas à grand chose en philosophie, puisque la logique vérifie les inductions. Et qu'est-ce que la logique donne au point de vue inductif? Rien. Aristote ne développe pas l'induction. Or, la philosophie, où est son intérêt? C'est la découverte des principes. Une fois que vous avez découvert les principes, vous découvrez les propriétés. C'est très intéressant. Alors, cette découverte des propriétés implique un raisonnement. La logique joue là-dessus. Mais c'est la partie résonante de la philosophie où la logique joue. Or, la partie résonante de la philosophie, c'est la moins philosophique. C'est le conditionnement humain.
On pourrait dire que la logique n'est qu'une vérification du raisonnement.
Oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait une vérification. Précision et vérification. La logique, c'est pour... Oui. Le tout confus, le genre. C'est de partie réflexive. La logique ne me donne aucun principe. Jamais. La logique ne me donne aucune connaissance propre. Garde-fou. Un garde-fou, la logique. Les êtres très intuitifs ont besoin de logique pour vérifier. Et les êtres logiques qui n'ont pas d'intuition, très ennuyeux. J'aime mieux des gens intuitifs qui n'ont pas de logique que des êtres logiques qui n'ont pas d'intuition. Oui. Parce que c'est mourant.